L'Europe, disait il y a peu Emmanuel Lévinas dans un article du Monde, Emmanuel Lévinas, le plus éthique de nos philosophes vivants, l'Europe, disait-il, c'est la Bible plus la Grèce. Je dirais, l'Europe, c'est le vieux continent où sont nés, autour du bassin méditerranéen, que je connais bien, d'une part les monothéismes, et d'autre part, la démocratie et la philosophie. Ils, elles, y ont pris racine pour se déployer en une expansion permanente, non terminée, expansion colonisatrice, civilisatrice, impérialiste, universaliste, sur les 5 continents. En ce qui nous concerne directement, nous les femmes, aujourd'hui, on sait combien 25 années de lutte de libération comptent peu au regard de plusieurs millénaires de ces 3 monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam conjugué, qui s'allient aujourd'hui, parfois en désintégrisme, dans un formidable backlash, comme diraient les Américains, dans une incroyable revanche de Dieu, comme nous avons commencé à le dire en France, pour contester nos nouveaux droits. Du côté du fonctionnement de nos démocraties, toujours dans l'ordre de l'héritage, en revanche, les choses sont beaucoup moins connues, et pourtant, les 8 fondateurs de la démocratie athénienne continuent d'évangéliser, si j'ose dire, ou d'apporter la bonne parole au monde à travers la culture, et en particulier le théâtre, avec des principes fondamentaux d'autant plus en agissant qu'ils nous restent le plus souvent cachés, inconscients ou refoulés. Le monisme démocratique, donc, à côté des monothéismes, domine la scène politique comme ça peut s'entendre sur les théâtres, parisiens en particulier, mais d'ici et d'ailleurs. Il y a un an à peine, j'ai assisté à une représentation des Euménides d'Eschyle. Et je voudrais en rappeler très rapidement le cours. Que racontent les Euménides ? Troisième et dernière pièce des Coéphores. Premièrement, Oreste, qui a tué sa mère Clytemnestre, qui avait tué elle-même son époux Agamemnon, en partie parce qu'ils avaient sacrifié leur fille Iphigénie. Oreste, donc, sera innocenté par la déesse vierge Athéna, jouira de non-lieu. Retenons ce mot de non-lieu, retrouvera son royaume et deviendra l'allié privilégié d'Athènes, la mère des démocraties. Deuxièmement, les Érinies, déesses vengeresses du matricide, en devenant les Euménides, perdront tout pouvoir, exit le matricide comme crime. Il n'y a plus de crime. Troisièmement, à l'exemple d'Athéna, née de son seul père, Zeus, qui avait avalé son épouse sur le point d'accoucher pour accoucher à sa place, les Athéniens autochtones naîtront de la terre mère sans femme. Et la démocratie athénienne, on le sait, exclura du droit à la citoyenneté les esclaves, les métèques et les femmes. Nulle part ailleurs que dans les Euménides n'est exprimée avec autant de clarté, de précision, de rigueur, d'arrogance, la défaite mythique, historique et politique des femmes, la dictature virile qui fonde le modèle démocratique, hantée dès l'origine par l'exclusion de l'autre, par, permettez-moi de l'avancer, l'envie d'utérus, par la haine de la femme mère et l'expropriation et la forclusion de son corps comme lieu de création de l'être humain, du par-l'être, du vivant, parlant et pensant. On forclut le corps des femmes au profit de la terre mère, puis on laisse Gaïa en dehors de la symbolisation. À partir du premier lieu vital, qui se soucie d'établir un contrat humain qui viendrait prendre le relais du contrat naturel ou du contrat social? Le corps maternel, ce premier environnement, ce premier milieu naturel et culturel, physiologique et mental, charnel et verbal, reste absolument forclos du questionnement philosophique, bien qu'il soit apparu depuis une vingtaine d'années dans le questionnement psychanalytique. Ce premier monde accueillant, où rejetant, où se forme, se crée, grandit l'être humain, n'est pas sujet à conceptualisation et à symbolisation permanente. C'est la première terre, la première maison que l'être humain habite pourtant. La chair vivante, parlante, pensante et intelligente des femmes est la première matière, pour ne pas dire la matière première, en même temps que la première machine formidable à transformer du biologique en humain. C'est non seulement une machine de production, mais c'est aussi le lieu, le moment de la première œuvre créatrice. La chair, ce cinquième élément, cette quintessence qui contient les quatre autres, reste complètement foreclose du questionnement des philosophes et des penseurs. Juste avant que je ne quitte la France, il y a eu un numéro de l'Observateur qui annonçait la pensée 93. Il y avait, je crois, 18 hommes au tableau, pas une seule femme, comme si la France ne comptait aucune femme qui pense. Je pourrais vous en citer dans les domaines où les hommes étaient mis au palmarès, plusieurs dizaines. Mais apparemment, la France ne s'en soucie pas, et ces penseurs qui ont entre 90 ans et 40 considèrent qu'à eux seuls, ils représentent et ils nourrissent la pensée. La gestation, donc, par le corps des femmes, reste un moment et un travail absolument ignoré, fort clos, alors que c'est peut-être, et c'est une question, une hypothèse que j'avance ici devant vous, c'est peut-être le lieu et le temps unique, l'espace-temps, comme disent les Japonais, de la commune et universelle origine de notre espèce. Arrivé à ce point de ma diatribe, pardonnez-moi, ça n'est pas très académique, mais j'ai toujours un peu de mal à rester dans le cadre de l'académie, je voudrais exprimer quelques souhaits. Plutôt que les mythologies de la Bible et de la Grèce qui falsifient l'origine en substituant à la gestation des hommes et des femmes des jeunesses fabuleuses et amatrices, plutôt que des démocraties unisexes et matricides, nous voudrions, nous les femmes, un processus de démocratisation qui reconnaisse l'irréductible différence des sexes, du lien de sexe, la dissymétrie et le privilège des femmes dans cette procréation, et qui fasse de la procréation un droit universel, non pas un devoir, non pas un devoir, non pas une prescription, avec un droit négatif qui est l'avortement, mais véritablement un droit affirmatif de toutes les femmes du monde à la procréation et à la libre disposition de leur corps. Nous en sommes loin quand nous considérons l'ensemble des femmes du tiers-monde ou même des femmes du tiers-monde dans nos sociétés, par exemple en France, les femmes algériennes, les femmes turques et les femmes africaines qui doivent continuellement se battre pour un peu de liberté et un peu de dignité. Nous voudrions que la réalité, la vérité de l'origine humaine, charnelle et sexuée, soit reconnue et que s'exprime une sorte de gratitude envers les femmes pour leur rapport unique à l'espèce, rapport à l'espèce dans sa généalogie, sa mémoire, sa transmission en progrès et sa capacité de penser, et je m'expliquerai un peu là-dessus. Nous voudrions une symbolisation qui reconnaisse le génie des femmes quant à leur génitalité et à leur identité propre, qui considère que la gestation est peut-être le paradigme d'une éthique de la générosité, où le corps étranger, l'autre, est accueilli par une greffe non seulement charnelle, mais psychique et spirituelle, modèle de toute greffe d'ailleurs, et où l'autre est aimé et créé comme proche et comme prochain. Nous voudrions aussi une économie sociale qui considère que ce geste, Cette geste de la gestation se situe hors de toute spéculation technique et marchande et de toutes les pollutions dévastatrices. Qu'elle soit protégée par une nouvelle alliance entre humains, avec les femmes, par un contrat humain qui garantisse la pérennité de notre lien vital aux matriciens, en arabe et en hébreu d'ailleurs, le même mot désigne la matrice et la miséricorde. Pour conclure, je voudrais essayer de résumer un peu ma pensée que je suis contraint ici d'exposer de manière un peu cavalière et sinon polémique, moins tantinée agressive. Depuis 25 ans, j'ai essayé d'organiser non pas une réflexion, mais une pensée autour de la soumission à un principe de réalité simple, un principe de réalité simple qui serait, il y a deux sexes, c'est ça la réalité. Il n'y a pas qu'une libidophalique, il n'y a pas de queue, il y a deux sexes, et ils sont irréductibles l'un à l'autre. Cette irréductibilité se fonde sur la dissymétrie de l'homme et de la femme quant au travail de la procréation, quant à l'expérience de la gestation comme un lieu et temps spécifique de l'accueil de l'autre, de l'hospitalité et de la responsabilité devant l'étranger, ou l'unheimlich, l'infamilier. La gestation comme origine commune, ou pour l'espèce humaine, s'entend, la généalogie de la pensée s'annonce et se prononce l'avènement de l'éthique. La gestation comme paradigme peut-être du penser à l'autre, comme dit Lévinas. Cette réalité est déniée à tous les niveaux de notre civilisation perverse, qui fonctionne sur une affirmation totalitaire, selon laquelle il n'y a que de l'un. Il n'y a que de libido, dit Lacan, elle est phallique. Il n'y a que de l'un sans l'une, il n'y a que de l'un sans autre. Il n'y a que de l'un au niveau symbolico-religieux, il n'y a qu'un Dieu. Au niveau symbolique et religieux, mono-libidinalisme, monothéisme et ordre signifiant. Il n'y a que de l'un au niveau politique, monodémocratisme, liberté, égalité, fraternité, pas de sororité ni de solidarité avec les femmes. Il n'y a que de l'un au niveau économique, fétichisme capitaliste, étalon hors de la matière, fut-elle de la matière vivante, pensante, c'est-à-dire de la matière humaine. C'est la symbolisation de ce que le tout-un forclos, de notre savoir forclos quant à la pensée première, de notre savoir forclos de l'expérience de la gestation comme épreuve, qui peut non seulement produire un dépassement des totalitarismes monistes, mais qui peut aussi promouvoir un mode de pensée éthique au-delà des modes de pensée animistes, religieux ou scientifiques, qui étaient les trois modes de pensée que connaissait Freud.